Le rayon BD, Baladi d'Ilanfil. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture. Toute la bande dessinée, vous disais-je la semaine dernière, tous les visages et tous les usages des plus grands classiques aux tentatives plus contemporaines ou originales. Nous allons essayer de tenir cet engagement. Et si pour la première, avec Catel et Christian Stabler, nous parlions de Goscinny et d'Astérix, une émission que vous pouvez bien entendu retrouver et télécharger sur le site de France Culture, aujourd'hui, je reçois une figure de la bande dessinée indépendante. Il nous dira peut-être ce qu'il pense de cette appellation, l'auteur suisse Alex Baladi. Baladi, ainsi qu'il signe ses ouvrages, qui sera en fin de semaine à partir du jeudi 12 septembre. L'invité d'honneur de la 15e édition du festival BDFIL de Lausanne. Nous aurons en fin d'émission au téléphone le directeur du festival, Dominique Radrizzani. Baladi que l'on reçoit aussi pour parler avec lui de son nouveau livre, paru au mois d'août chez les excellentes éditions Atrabile, un livre qui s'intitule « Robinson Suisse ». Pour beaucoup, c'est d'abord un souvenir d'enfance et de télévision, les Robinson Suisse. Pour moi, c'était un dessin animé japonais du Club Dorothée. Pour Baladi, qui a quelques années de plus que moi, c'était une série télévisée canadienne. Bonjour Alex Baladi.
Bonjour.
Alors on commence avec la télévision.
Oui.
C'était ça pour vous aussi?
Exactement, c'est comme ça que j'ai entendu parler des Robinson Suisse. Et d'ailleurs je croyais que c'était une création américaine en fait, une invention. Et je trouvais ça très bizarre que une famille suisse en fait soit naufragée sur une île déserte puisqu'il n'y a pas de mer en Suisse. Donc déjà je trouvais ça absurde.
Mais alors pour commencer, il faut donc revenir aux origines de cette histoire de Robinson Suisse et rappeler que c'est d'abord un livre écrit par l'un de vos compatriotes en allemand, un pasteur qui s'appelait Johann David Wyss à la fin du XVIIIe siècle, un livre qui est paru en 1812 et qui raconte donc la vie sur une île déserte d'une famille, les parents et les quatre enfants à la suite d'un naufrage. C'est ce naufrage d'ailleurs qui est sur la couverture de votre livre Robinson Suisse, qui paraît donc chez Atrabile. C'est un naufrage qui est sur la couverture mais qui n'est pas dans les pages de votre livre, il n'est pas question de naufrage puisque votre histoire commence plus tard. Et d'ailleurs, le nom du pasteur Wyss ne figure pas non plus sur la couverture. Il est marqué d'après Isabelle de Montolieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça?
Oui, alors en fait, des années après, en tant que jeune adulte, j'ai découvert qu'effectivement ça venait d'un livre. J'ai découvert ce livre dans une bibliothèque ici à Paris. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire peut-être une adaptation en bande dessinée, mais je savais absolument pas ce que ça racontait, à part ce que j'en savais des épisodes à la télé, évidemment. Et puis, j'ai gardé ce projet de côté. Alors, entre-temps, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelait Les Gullivers Suisses, sur un site qui s'appelait Diogène. Une petite série où j'avais complètement réinventé l'histoire, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en savoir plus, en fait, sur les Robinson Suisse, peut-être lire le livre. Et en faisant des recherches sur Wikipédia, je me suis aperçu que la traductrice de la version française avait fait une suite. Et qu'elle avait aussi, dans sa traduction, pris quelques libertés. Et donc j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit, ok, je vais adapter que la suite. Mais j'avais encore rien lu, non. Ni les premiers livres, ni la suite, quoi. Et voilà. Et ensuite, j'ai trouvé cette suite, grâce à l'aide d'une amie. Et je l'ai lu et je me suis dit, c'est parfait, je vais l'adapter chapitre par chapitre.
Alors ce que vous nous racontez là, donc la genèse de ce projet, ça occupe les premières pages de votre livre. Un livre qui commence, j'allais dire, comme vos autres livres. Quand on ouvre Robinson Suisse, on est tout de suite plongé dans ce qui fait un peu le style Baladi, pourrait-on dire. Ce titre avec ses lettres un peu épaisses, dans des polices un peu originales que vous inventez, que vous dessinez, et puis ces cases en noir et blanc disposées sur la page qui se touchent les unes les autres par une arête et qui fait que le regard serpente un peu dans la page. Ça, c'est les 6 premières pages du livre qui racontent le projet. Puis ensuite, quand commence l'histoire, donc au chapitre 40, puisqu'on est dans la suite de l'histoire du pasteur Wyss, on voit tout de suite une maison sur un arbre et un ciel rouge, des feuilles vertes, de plusieurs verts, un peu comme des soleils verts. bref, de la couleur. On n'est pas habitué à vous voir travailler en couleur. Ben, elle a dit, c'est pas tout à fait la première fois, mais presque.
Pourquoi alors, c'est le troisième, hein, le troisième livre que je fais en quadricomie. Sinon, j'ai fait en tout 11 livres maintenant avec des couleurs, mais c'est souvent des bichromies, de la sérigraphie où il y a une ou deux couleurs. Et là, je me disais que ça s'y prêtait, en fait, tout simplement, parce que c'est, au départ, c'est un livre pour enfants. Et donc, moi, je voulais recréer quelque chose qui vienne de mes souvenirs de bande dessinée d'enfants des années 70, en fait, tout simplement, quand j'ai découvert cette série, justement.
Qui sont quoi, vos souvenirs de bande dessinée d'enfants?
Ben, c'était Rahan, Lucky Luke. Rahan, qui a d'ailleurs le même âge que moi, qui est né en 69 aussi. C'était les Lucky Luke. Donc, c'était toutes ces bandes dessinées des années 60 et 70, avec des couleurs assez fortes, des personnages. Par exemple, dans Lucky Luke, il y a des personnages qui sont entièrement rouges, entièrement verts, bleus, oui. Dans Rahan, c'est pareil, il y a des gens qui sont des tribus qui sont avec la peau violette, etc. Et il y avait tout un système de couleurs comme ça, de graphismes qu'on retrouvait aussi dans d'autres choses, dans des affiches, dans le dessin animé Yellow Submarine par exemple, des choses comme ça. Voilà, j'ai décidé de partir de là. En fait.
Parce que l'usage que vous faites de la couleur n'est pas un usage illustratif ou naturaliste, ce sont des couleurs qui sont... Comment est-ce que vous pourriez dire ça symbolique? Cette première image, par exemple, dont je parlais, le ciel est absolument rouge vif. Alors, en effet, ça rappelle un peu Lucky Luke, parce que Lucky Luke, c'était quelquefois un personnage d'une couleur dans un décor ou sans décor. Comment est-ce que vous avez choisi vos couleurs, travaillé vos couleurs? Il y a des pages, selon les chapitres, quelquefois c'est à dominante rose, parfois jaune, parfois rouge, parfois dans les bruns ou les gris, les bleus. Comment est-ce que vous avez choisi et qu'est-ce qu'elles veulent dire pour vous, ces couleurs?
Alors j'ai hésité à faire quelque chose de plus réaliste en fait au départ. En plus j'avais été invité sur un voilier en Indonésie pendant 2 semaines en fait. C'est un voilier qui a reproduit la route de Magellan pendant 4 ans. Et il y avait des scientifiques à bord et aussi de temps en temps ils envoyaient des dessinateurs de bande dessinée. Et je m'étais dit c'est parfait parce que j'avais ce projet donc j'ai fait plein de dessins d'îles etc. Et enfin de la faune de là-bas, mais en relisant le livre, je me suis dit qu'en fait c'était exactement le contraire que je voulais faire, c'est-à-dire vraiment faire quelque chose qui a beaucoup de distance avec la réalité justement, parce que d'ailleurs Isabelle de Montolieu, elle décrit une faune qui est à la fois africaine, indonésienne, enfin c'est une espèce de mélange un peu farfelu, quoi. Et je me suis dit que c'était mieux de faire quelque chose de plus grotesque, comme ça, de plus caricatural, et qui soit très différent de la réalité.
Alors, vous parlez de mélange, il y a aussi un mélange de techniques pour ces couleurs et pour le dessin en général de ce livre. Il y a des couleurs, on aperçoit si on fait attention, parce que c'est assez cohérent visuellement, mais il y a du collage, il y a du typex, il y a parfois des scènes qui sont faites au bic, il y a du crayon de couleur, il y a de la peinture. Je me suis demandé si c'était toujours de la gouache ou de l'aquarelle, mais enfin, il y a des choses qui sont un peu délavées ou...
En fait, c'est de l'acrylique et de la gouache. Enfin, c'est simplement parce qu'il me restait de l'acrylique noir, blanche et rouge chez moi, donc je l'ai utilisé. Et puis à un moment donné, je voulais mettre d'autres couleurs, donc je me suis acheté de la gouache en fait.
Et pourquoi avoir mélangé toutes ces techniques? Pourquoi parfois donc ces nuages découpés dans du collage? Il y a aussi des choses qui sont faites sur des fonds qui ont l'air d'être...
Voilà, je voulais dès le départ en fait être complètement libre d'utiliser exactement ce que je voulais, selon ce que je voulais raconter, tout simplement. D'être au service de l'histoire avec tous les procédés possibles de mise en couleur. Et en fait, j'ai commencé par faire toutes les entêtes. D'abord, j'ai fait les premières pages de tous les chapitres.
Qui sont toujours une grande illustration.
Exactement.
Une grande image.
Ouais. Alors, j'avais fait un storyboard de 140 pages. Et c'était pas toujours comme ça, d'ailleurs, pour la première page. Mais en faisant le livre, j'ai décidé que ce serait chaque fois une illustration comme
tête
première page de chapitre. Ouais. Et ensuite, une fois que j'avais toutes les têtes de chapitre qui donnaient un peu la direction à suivre pour le chapitre, j'ai fait les autres pages.
Alors les chapitres sont de taille inégale d'ailleurs, certains font une page ou deux en comptant l'entête, d'autres sont plus longs, certains sont narratifs, d'autres sont plus illustratifs, il y a là encore un mélange, il y a des planches parfois presque documentaires qui rappellent les livres pour enfants. Par exemple, quand il y a l'inventaire de ce que les Robinson suisses trouvent dans une valise qui échoue sur leur île. Il y a une planche qui ressemble à une planche de bricolage. Comment construire une voiture pour la maman qui s'est cassé la jambe.
J'ai trouvé une
pas
vidéo,
facile à comprendre,
en fait,
d'ailleurs.
Une vidéo sur Internet.
J'ai pas bien compris comment ils faisaient les roues et on fait brûler quelque chose.
Non, ça vient d'une vidéo authentique où un type, se construit une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, une salle de sport, pour faire des...
Ah ouais, pour faire de...
Voilà, c'était une espèce de vidéo un peu humoristique comme ça, mais où on voyait bien comment il avait construit tout ça. Donc j'ai repris ça, tout simplement.
Mais alors, ce souci de liberté que vous avez de faire des chapitres différents, des techniques de couleurs différentes, vous dites que c'est d'abord au service de la narration, de ce que vous vouliez raconter. Il y a besoin de changer comme ça, de registre, de façon de dessiner pour raconter cette histoire.
Moi, je trouvais que ça servait effectivement la narration d'utiliser différentes choses, selon si c'est un rêve aussi, si c'est la réalité, si c'est des listes, tout en essayant de faire quelque chose qui soit quand même assez fluide. Pas des ruptures qui soient trop difficiles à lire, en fait. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit facile à lire, j'espère que j'ai réussi. Et par rapport à toutes ces techniques, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus.
Est-ce que ces techniques servent la narration ?
Voilà, en fait... Donc j'avais fait ce storyboard de 140 pages. Et malheureusement, en fait, je trouvais qu'il y avait un problème de rythme. Et donc, j'ai voulu réduire ça à 102 pages, qui sont les 102 pages du livre. Et c'est là que j'ai découvert aussi, en voulant réduire le livre, en changeant le rythme, j'ai découvert quelques techniques, en fait, pour simplifier certains chapitres, pour les rendre plus intéressants, à mon avis. Justement, simplement en mettant justement des listes, des choses comme ça, le chariot, la construction du chariot, plutôt que de dessiner la famille qui construit le chariot, etc., simplement mettre une espèce de mode d'emploi, comment construire ce chariot, etc. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui faisaient que, à mon avis, c'était plus pertinent.
Alors en parlant du rythme, j'évoquais au début les mises en page, disons, classiques de vos livres précédents, avec ces cases qui sont disposées un peu en serpentin, un peu comme des perles sur un fil dans la page. Là, la plupart des pages, si on excepte ces planches de bricolage ou ces planches d'illustration, sont toutes divisées, ou presque toutes divisées, dans un gaufrier pas tout à fait classique, mais de 6 cases par page. À peu près régulière. Pourquoi avoir choisi cette façon de découper, très lisible, mais qui ne ressemble pas à la plupart des choses que vous avez faites avant, puisque votre travail est, quand même, il faut dire, toujours assez protéiforme.
Ouais. Là, je voulais quelque chose d'un peu plus classique, justement. Donc, qui se rapproche de cette bande dessinée classique des années 70. Même si j'ai pas fait d'espace entre les cases, c'est pas non plus hyper classique, mais je trouvais que ça s'y prêtait bien aussi. Avec la couleur en plus, ça me permettait de faire des espèces de damiers, de jouer avec les couleurs. Voilà, c'était assez intéressant.
Alors sur la forme, il y aurait donc énormément de choses à dire. J'invite bien sûr nos auditeurs à aller découvrir ce livre qui est très étonnant quand on le feuillette et puis encore plus quand on le lit. Mais alors, parlons un peu du fond. Les Robinson Suisses, au début, c'est une œuvre sinon religieuse. Enfin, elle est écrite par un pasteur. Elle est empreinte d'une morale tout à fait sérieuse de la fin du XVIIIe siècle. L'adaptation d'Isabelle de Montolieu prend peut-être un peu plus de liberté, élague un peu les passages trop moralisateurs.
Quoique, voilà, c'est que ça reste quand même très moralisateur.
Avec la question de la providence, évidemment, comme dans l'œuvre d'ailleurs de Robinson Crusoe de Defoe, avec aussi la question des sauvages, enfin ou des indigènes en tout cas, qu'on appelle les sauvages, qui sont peut-être sur ces îles et qui est au centre de ce récit que vous faites des Robinson Suisses. Est-ce que c'est pour le côté politique que vous avez choisi ou d'adapter ce livre ou que ce livre vous a intéressé ?
Alors en fait, tout le discours sur les sauvages existait déjà dans le livre d'Isabelle de Montolieu. En tout cas, tous les deux frères au début qui discutent, ils sont sous la pluie, etc. Et il y en a un qui dit peut-être que ces sauvages pourraient être nos frères. Et l'autre, il dit non, mais c'est des cannibales, ils sont dangereux, etc. Tout ça existait déjà. Et donc, j'ai quand même assez bien suivi. Alors, j'ai dit que c'est une adaptation libre parce que j'ai quand même changé deux, trois trucs, surtout vers la fin, en fait. Mais j'ai vraiment suivi chapitre par chapitre ce qui se passait. Et dans le livre d'Isabelle de Montolieu, ils sont aussi obsédés par la rencontre avec ces sauvages. En fait, ils en ont très peur.
Alors, ces deux frères, il y a quatre garçons, hein, on le rappelle, mais ces deux frères sont les figures les plus antagonistes sur le sujet. J'ai cru vous reconnaître.
C'est un peu comme les Dalton, en fait. Il y en a deux qu'on connaît un peu mieux, enfin, qui ont vraiment des caractères, et puis les deux autres sont un peu plus effacés.
Et il y en a un, je croyais que c'était vous au début, le troisième, celui qui est, disons, bienveillant, qui est pour l'ouverture, qui est pour la fraternité. Il vous ressemble d'abord, que souvent vous vous représentez dans vos bandes dessinées avec des cheveux. Je me disais, tiens, peut-être que c'est lui qui... Et puis, il est un peu sceptique, il a un caractère plus intéressant. L'autre est plus brutal, il est contre les sauvages, il veut sans doute les tuer. Et puis, à un moment, j'ai vu que ce deuxième frère, donc Jack, celui qui est brutal et violent, tient son crayon comme vous, parce qu'on sait que vous... Quand on vous a lu, que vous tenez votre crayon entre deux doigts, je me suis dit, tiens, est-ce que vous vous êtes mis là-dedans? Est-ce que vous êtes un peu des deux?
J'avais oublié ce détail de la main, mais je pense que effectivement, j'ai dû faire exprès. C'était une espèce d'auto-caricature, comme ça. C'était aussi, j'aimais bien le côté, en fait, le côté artiste de ce personnage de Jack, qui est relativement sensible. Il est artiste, il voit certaines choses que les autres ne voient pas. Mais il en tire des conclusions qui sont quand même mauvaises.
Et alors, il présente, par exemple, à son plus jeune frère, les sauvages, dans une sorte de typologie des sauvages, qui est pleine de références. Il y a quatre familles de sauvages. Le premier, il montre une illustration, on reconnaît Yakari, de votre compatriote, de Rib.
Ouais. Ensuite, on voit... Enfin, Yakari un peu agressif.
Un peu agressif. Ensuite, on voit... Un asiatique qui ressemble à Mitsui Hirato dans le Lotus Bleu.
Exactement, oui.
Mais il a un chapeau chinois. Un Africain qui ressemble un peu à Coco, là on est dans Hergé. Ouais. Et puis alors le Sémite. Ouais. Le Sémite qui a des moustaches en forme de sabre. Et puis alors, il y a une petite dissertation sur ce sujet. Et ça, c'est la couverture de David Bay.
Ah oui, vous avez reconnu.
Avec Jean-Pierre Filliou.
Voilà, ouais.
Et puis alors là, vous y allez un peu. L'agressivité ouais. est comprise dans le dessin, tu comprends, c'est un dessin didactique.
Ouais. Après, ça représente aussi, alors j'ai pris quelques petites références comme ça, mais ça représente aussi d'autres dessins caricaturaux un peu racistes qu'on voit en ce moment, quoi. Islamophobes notamment. Quoi.
Donc il y a toute une réflexion sur ce que peut être le dessin et la bande dessinée aussi. Je vous propose d'écouter une archive de Moebius, Jean Giraud, et vous réagirez après.
Quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, je me rendais pas compte que je voulais m'exprimer. Ce que je voulais, c'était faire des histoires de cow-boy. Je voulais faire du western, classique, classicos, avec les cases les unes derrière les autres, bien, hein. Puis alors, non, mais si, c'était ça, hein. Et il y a beaucoup de dessinateurs à l'heure actuelle, leur rêve, c'est pas d'exprimer vraiment, c'est d'arriver à faire de la bande dessinée et de se retrouver dans un journal en train de paraître avec, c'est ça. Après, ils s'aperçoivent ce qu'il y a derrière.
Le garage hermétique de Jerry Cornelius. Troisième truc, Star Billard. Résumé, le major Gruber a décidé d'envoyer son espion vers son ancien repère.
France Culture, le rayon BD. Victor Massé de Lépineau.
Alex Baladi, je voulais vous passer cette archive de Moebius, parce que j'ai entendu beaucoup d'échos avec pas mal de votre travail. D'abord, le goût du western que vous avez aussi. Vous avez publié au moins un western. C'était chez Delcourt il y a quelques années.
Je suis en train d'en faire un autre, d'ailleurs.
Goudron plumé, même si c'était pas du western classicos, comme dirait Jean Giraud. Mais ce qu'il vient de dire sur la bande dessinée, sur ce qu'il y a derrière, sur cette façon de pouvoir s'exprimer, ça c'est quelque chose qui guide votre travail peut-être depuis le début.
Oui, en plus, en fait, la découverte du garage hermétique de Moebius a vraiment changé ma vie, quoi, en tant que dessinateur.
C'était quand vous aviez 12 ans ?
12 ans, exactement. Et d'ailleurs,
pourquoi ça a changé votre vie ? Comment ?
Parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire une bande dessinée différemment, quoi. Ça m'a ouvert en fait un monde de possibilités en fait que je voyais pas avant, hein, quand je lisais les bandes dessinées plus classiques.
Et vous vouliez dire quelque chose?
Eh bien, en fait, j'avais fait des pages inspirée du garage, enfin reprise du garage hermétique pour un numéro de Lapin. C'était le Lapin 35. C'est Jean-Christophe Menu qui avait demandé à des dessinateurs de faire des covers, en fait, de faire des reprises, comme dans le rock, de certaines pages qu'on avait aimées. Et j'ai fait 4 pages de garage hermétique. Et j'ai tellement aimé faire ça que j'ai fait d'autres pages, en fait, de garage hermétique. Donc j'en ai fait d'autres qui n'ont jamais été publiées.
Des nouvelles, des créations?
Non, en fait, c'est pratiquement décalqué, mais c'est une autre version. C'est comme une autre version où je transforme la chose.
Ce que Blutch a fait aussi récemment.
C'est un peu comme ça, ouais. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans la revue Bédéfil qui sort pour le festival de Bédéfil.
Alors justement, vous évoquez ce festival de Bédéfil dont vous êtes l'invité d'honneur qui commence jeudi prochain, le 12 septembre. Nous sommes en ligne avec Dominique Radrizzani. Dominique Radrizzani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de ce festival Bédéfil qui commence donc cette semaine et dont Baladi est l'invité d'honneur. Vous signez d'ailleurs aussi la préface de Robinson Suisse qui paraît chez Atrabile. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter d'abord le festival Bédéfil? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il se distingue peut-être d'autres festivals de bande dessinée?
Alors c'est un festival qui est la reprise ou le surgeon du Festival international de BD de Sierre, qui était le deuxième, je pense, festival plus important d'Europe après Angoulême et qui a cessé son activité en 2004. Il avait donc duré de 1984 à 2004 et à partir de 2005, il renaît de ses cendres à Lausanne sous le nom de Bédéfil. Mais c'est en fait un festival historique qui s'est déplacé en Suisse romande. En quoi il se distingue, je sais pas très bien. Bah là, en l'occurrence, dans le fait que son affiche a été réalisée par un artiste indépendant, ce qui est pas banal, peut-être, dans le monde des festivals de bande dessinée. C'est quasiment une première, en fait, je pense.
Et l'artiste indépendant, c'est Baladi.
C'est Baladi, effectivement, un anti-classicos. Voilà, qui donc fait une affiche qui est liée au Robinson Suisse, puisqu'elle montre un gorille qui apparaît dans l'histoire, qui est mentionné dans l'histoire, qui s'appelle Kong. Et ce gorille pousse un cri muet, c'est un phylactère hérissé de pointes, comme la crinière même du gorille. Et ce phylactère enferme ce que j'appelle une pelote d'énervement.
Absolument. La programmation de Bédéfil est très riche, il y a énormément d'expositions, on peut pas toutes les mentionner. Une exposition sur Lausanne en bande dessinée, une exposition sur la conquête spatiale, puisque on fête les 50 ans on se rappelle qu'il y a 50 ans, l'homme marchait sur la Lune. Une exposition sur... Une exposition de Baladi, bien sûr. Une autre sur Tiff et Tondu, une autre sur À suivre. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est une exposition sur l'ombre en bande dessinée.
Oui, alors c'est un prolongement et actuellement à la Fondation de l'Ermitage à Lausanne, une exposition qui est une sorte de parcours anthologique d'ombre, ou vraiment un regard d'historien de l'art sur l'ombre depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, avec des œuvres de Luca Cambiaso pour la Renaissance et de Christian Boltanski pour la scène contemporaine. Et j'ai voulu faire un prolongement BD, on pourrait dire, bande dessinée, 9e art, de cette exposition qui s'arrête à peu près. Il y a dans l'exposition de la Fondation de l'Ermitage la couverture, le fameux 12 de couverture des Lucky Luke. Et en fait, voilà, c'est un prolongement vraiment de cette réflexion sur l'ombre avec quelques ombres iconiques de la bande dessinée.
Celle de Lucky Luke, celle peut-être aussi de Peter Pan. En tout cas, l'ombre, c'est aussi le thème du concours de bande dessinée, du concours Nouveau Talent, qui est quelque chose d'important au Festival Bédéfil que vous lancez. Un mot sur ce concours?
Alors, c'est un concours annuel qui est ouvert à toute personne de 15 ans et plus qui n'a jamais été publiée. Et les 3 lauréates sont en leur planche. Par contre, publié dans la revue Bédéfil, avec une année d'écart, ceux qui ont ceux qui ont été distingués cette année seront publiés dans le numéro de l'année prochaine, évidemment. Et c'était, c'est toujours l'invité d'honneur, donc en l'occurrence, c'est Alex Baladi qui a présidé le jury du concours.
Merci beaucoup Dominique Radrizzani. Vous évoquez la revue BDFIL qui sort donc à l'occasion de ce festival cette semaine. On mettra toutes les références sur le site internet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alex Baladi, vous serez donc à Lausanne cette fin de semaine. Vous y serez aussi avec vos compères de la Fabrique des Fanzines.
Exactement.
Un petit mot sur ce que c'est que la Fabrique des Fanzines.
Alors la Fabrique des Fanzines, c'est quelque chose qu'on avait créé pour justement le Festival de Sierre en 2003, qu'on pensait faire qu'une seule fois. Et on a été réinvité de nombreuses fois, donc depuis 2003, on l'a fait peut-être 80 fois. Et on demande au lieu qui nous invite, ça peut être un festival de BD, c'est souvent un festival de BD, mais parfois c'est une galerie d'art, une bibliothèque, etc., de nous mettre à disposition une photocopieuse avec de l'encre et du papier. Nous, on vient, on fait plein de petits fanzines, et ça donne envie aux gens d'en faire aussi. Et au début, on a toujours un fil sur lequel on met les fanzines, un exemplaire de chaque fanzine avec une pince à linge. Donc au début, le fil est vide, et à la fin, il y a plein de fanzines qui pendent. Et on fait toujours 5 exemplaires de chaque fanzine que les gens peuvent prendre, et on scotche l'original contre un mur, donc on pouvait le refaire pour ceux qui sont intéressés. Quoi.
Et vous l'avez fait 80 fois, vous gardez, vous, toujours
enfin,
un exemplaire.
80 fois, je crois qu'on a même dépassé, ça s'approche des 90, je pense.
Et vous gardez toujours un exemplaire de chaque fanzine?
Alors, on garde même les originaux, généralement, et un exemplaire, ouais. Voilà. Donc on a beaucoup de fanzines.
Ben, si vous voulez faire des fanzines et que vous êtes à Lausanne ou dans les environs, n'hésitez pas à vous rendre donc cette fin de semaine à partir de jeudi à Lausanne pour le festival BDFIL, dont vous êtes l'invité d'honneur Alex Baladi. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans le Rayon BD.
Merci.
Et on se quitte avec Six Dreams du groupe Les Seeds, un morceau qui est important pour vous, Alex Baladi, comme vous le révélez dans le livre Peine perdue qui est paru à l'association il y a quelques années, l'association, un autre de vos éditeurs historiques. Le Rayon BD, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était préparée avec Pascaline Bonnet, réalisée par Marie-Laure Ciboulet, avec à la technique Alex Dang.
Six dreams in my vision little last night. The first dream appears in vapor on the strike of one.
Une émission que vous pouvez retrouver, réécouter et télécharger sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous trouverez également sur la page de l'émission les références du Robinson Suisse et de quelques autres livres de notre invité d'aujourd'hui, Alex Baladi. La semaine prochaine, nous nous plongerons dans le patrimoine de la bande dessinée américaine avec Gasoline Alley, de l'un des pionniers de la bande dessinée, Frank King, et ses personnages de Walt et Skizix créés en 1918 et dont les aventures sont traduites pour la première fois en français aux éditions 2024. Mais dans quelques instants, vous retrouverez Aurélie Luno pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.